Chers frères et sœurs, chers amis, à ouvrir votre Bible dans l'Évangile de Luc. Évangile de Luc au chapitre 15. Alors la semaine dernière, nous avons vu ce chapitre avec les ados et les pré-ados. Et je voudrais qu'on voit cela ensemble aussi. Luc chapitre 15. Alors si vous connaissez bien le chapitre 15, tout le monde connaît le chapitre 15 de Luc, je crois. Tout le monde a entendu parler des brebis perdues, de la drachme perdue et puis du fils, qu'on dit le fils prodigue. Donc c'est un texte que vous connaissez bien. Je vous propose néanmoins de le lire en entier et d'être attentif à la lecture de ce texte. Le début nous dit ici tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre, et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille les gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Et ça, c'est la raison de ces paraboles. Hein. Donc, il faut les prendre toutes les trois ensemble. Les publicains, les gens de mauvaise vie, dit le texte, viennent voir Jésus, écoutent sa parole. Alors les publicains, c'était les collecteurs d'impôts. Ils n'étaient pas beaucoup aimés, je pense pas qu'ils le soient plus aujourd'hui, mais c'était des gens qui étaient à la solde des Romains, et qui donc récoltaient les impôts, et puis bien sûr, et qui en passant en mettaient un petit peu pour eux-mêmes, donc ils n'étaient pas honnêtes. Et ils avaient une certaine dureté, ils n'étaient pas aimés du peuple. Et les gens de mauvaise vie, appelés parfois dans d'autres textes, généralement les pécheurs, désignaient peut-être tous ceux qui ne suivaient pas la loi. Hein. Les pharisiens, donc regardaient toutes ces personnes, les scribes, ils les appelaient des pécheurs. C'est vrai que parmi eux, il y avait des gens qui vivaient, qui avaient des vies décousues, etc., qui n'étaient pas sous l'observation stricte de la loi, et les pharisiens les appelaient des gens de mauvaise vie. Et donc, quand ils voient ces personnes s'approcher de Jésus, ou quand ils voient Jésus s'associer à ces personnes, et même, il dit ici, ils mangeaient avec eux, ils disent, il y a un problème là ici, hein. Cet homme, il ne peut pas être attiré, s'il dit venir de Dieu, il doit savoir de quelle nature sont ces personnes, et il ne peut pas être attiré, s'associer avec ces personnes, et même manger avec ces personnes-là. Et vous vous rappelez, lorsque Jésus avait rencontré Zachée qui était un publicain, un collecteur d'impôts, et lui a dit, Zachée, descends, c'était un homme de petite taille, il est monté dans un arbre pour pouvoir voir Jésus. Jésus lui dit, Zachée, descends parce que je dois demeurer aujourd'hui dans ta maison. Et la Bible nous raconte comment le Seigneur est entré dans la maison de Zachée, et puis il a dit, le salut est entré dans cette maison aujourd'hui. Et rappelez-vous la réaction des pharisiens lorsque Jésus entre chez Zachée. Il dit, voyant cela, tous murmuraient, disant, il est allé loger chez un homme pécheur. Donc Jésus était pointé du doigt. Dans Marc, il est dit qu'il était appelé l'ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Alors, dans leur pensée, si cet homme vient de Dieu, il doit passer son temps avec ceux qui observent la loi de Dieu, c'est-à-dire nous, les scribes et les pharisiens. Et donc le fait qu'il s'associe avec ces gens-là montre qu'il n'est pas ce qu'il professe être. Il n'est pas celui qui vient de Dieu. Rappelez-vous, à un moment donné, il y avait je ne me rappelle plus dans quelle situation, mais je crois que c'était chez Simon, hein, Jésus rentre chez lui, et puis une femme qui vient, et puis qui verse du parfum ou sur ses pieds, ou qui pleure, je ne me rappelle plus exactement la scène, mais la réaction de cet homme, c'est de dire, si cet homme savait qui est cette femme, si cet homme venait de Dieu, il saurait qui est cette femme. Et qu'elle est une femme de mauvaise vie, sous-entendu, il ne se laisserait pas approcher par elle. Donc, la conclusion, c'est que il n'est pas ce qu'il dit être. il ne vient pas de Dieu. Alors, quand ils disent ça ici, ils disent, verset 2, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Et Jésus leur dit, laissez-moi vous raconter une histoire. Okay. Même trois histoires. Et il faut les lire attentivement. Donc, il faut penser que Jésus parle à ces personnes et qu'il répond à leur réaction face à son association, la relation qu'il entretenait avec les gens de mauvaise vie. Donc, lisons à partir du verset 3. Mais Jésus leur dit cette parabole. Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il l'ait trouvée? Et lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura de la joie dans le ciel, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ou, quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve? Lorsqu'il l'a trouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Il dit encore « Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père « Père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le jeune fils ayant tout amassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans le pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un habitant du pays, qu'il l'envoya dans les champs garder les pourceaux. Et il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi je meurs de faim? Je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras, tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. Ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec les prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et qui est revenu à la vie, parce qu'il était perdu, et qu'il est retrouvé. Alors, ceci, c'est la parole de Dieu. Alors, le titre de notre méditation ce matin, c'est « Jésus et les perdus ». Jésus et les perdus. Alors, quand on lit ces histoires, et surtout la dernière parabole, on a toujours tendance à se chercher à s'identifier au fils prodigue, hein, qui est parti loin, qui vivait dans le désordre, et puis qui revient, qui se repent, et puis on aime cette histoire, et c'est certainement l'une des histoires les plus connues, les plus lues, hein, de la Bible. D'ailleurs, le titre, quand on lit ici le titre dans les Bibles, c'est écrit parfois le fils prodigue, hein. L'accent est mis sur le fils prodigue. Mais le caractère que Jésus dépeint ici n'est pas celui du fils prodigue, s'il faut parler des individus, que celui du fils aîné, parce qu'il parle aux pharisiens. Et les pharisiens sont représentés ici par la figure du fils aîné. Et c'est pour ça qu'il arrive jusqu'à là avec cette histoire, hein. Ça aurait pu se terminer après la repentance du fils prodigue. Non, il va jusqu'au fils aîné pour parler au cœur de ces pharisiens. Bien sûr. Et qu'est-ce qu'il leur montre? Qu'est-ce que Jésus met en évidence dans ces paraboles? Alors souvent, on regarde des paraboles et puis on essaye de trouver ça veut dire ci, ça veut dire ça. Ça c'est le Saint-Esprit. Ça c'est l'eau par là. C'est une chose qu'il faut rarement faire avec les paraboles parce que en général, elles visent un point principal. Et les trois paraboles qui sont données ici sont pour enseigner une vérité principale. Alors bien sûr, on peut le faire si, quand on lit par exemple la parabole des terrains, où il y a un semeur qui sortit pour semer, et puis après la semence tombe un coup sur le bord du chemin, dans le terrain rocailleux, là où il n'y a pas beaucoup de terre, et puis dans la bonne terre. Jésus lui-même donne l'explication, et puis il dit, la semence c'est ça, le terrain c'est ça, le semeur c'est ça. Donc là, on peut dire ce que Jésus dit. Mais ici, il dit pas. Hein, il dit pas ça. Donc on peut pas dire exactement tel détail, c'est exactement ça. D'accord. On peut quand même comprendre que il faut surtout comprendre qu'il donne ces paraboles pour répondre à la réaction des pharisiens qui ont dit cet homme accueille les gens de mauvaise vie et il mange avec eux. Ces pharisiens avaient une conception particulière de Dieu et des personnes que Dieu accueillait. Et Jésus leur raconte cette parabole pour leur montrer qui est Dieu véritablement et comment Dieu agit à l'égard des pécheurs. Et première chose que l'on peut voir ici, il montre que Dieu travaille activement, je vais rajouter individuellement, et efficacement à la recherche des perdus. Dieu cherche activement, individuellement et efficacement les perdus. Alors si vous lisez bien les paraboles, hein, la lecture de ces paraboles nous laisse voir qu'il y a quelqu'un qui a perdu quelque chose. Les trois paraboles. Quelqu'un a perdu quelque chose et cette personne qui a perdu quelque chose cherche cette chose avec beaucoup de diligence, beaucoup de rigueur. Et surtout, si on regarde la seconde histoire qui est racontée, celle de la femme, eh bien, il est même dit qu'elle cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle trouve. Le berger quitte les 99 brebis qu'il a et il va chercher la centième qui est perdue. La femme laisse les 10 pièces et va chercher la pièce qu'elle a perdue. Alors bien sûr, dans la troisième, on ne voit pas le père qui court et qui cherche le fils là où il est. Mais néanmoins, ce qui est dit, c'est que, si vous regardez bien, lorsque le fils revient, le Père, il est déjà là. Hein? Donc, il est en train d'attendre, et c'est une manière de chercher d'attendre que ce fils revienne. Donc, il y a des personnes qui ont perdu quelque chose et qui cherchent. Donc, soit une brebis, soit une pièce, ou soit un fils. Mais l'accent est mis sur le fait que ces personnes cherchent activement. Et dans les deux paraboles, première parabole, regardez ce qui est dit. Il est dit, verset 4, il est dit, « Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis, et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve. » Donc on voit, il y a ici une recherche qui va jusqu'au bout. Ce n'est pas juste chercher de manière superficielle. Dans la seconde aussi, verset 8, il est dit, « Quelle femme, si elle a 10 drachmes et en perde une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle trouve. » Et là encore, pour cette femme, il est dit qu'elle allume, qu'elle balaye, qu'elle soulève la poussière, qu'elle sort de la maison, et puis elle travaille jusqu'à ce qu'elle trouve. Hein. Parfois, lorsque nous cherchons quelque chose, nous ne cherchons pas avec beaucoup de diligence. Il m'arrive parfois de chercher un objet, un livre ou un papier, que je ne retrouve pas. Et puis, je demande à ma femme, parfois, est-ce qu'elle aurait pas vu ce papier ou cette chose? Et elle me dit, as-tu cherché dans le tiroir? Je dis, oui, j'ai cherché. J'ai regardé déjà là-bas et j'ai pas trouvé. Bien, alors elle vient et elle cherche dans le tiroir. Et puis parfois, elle trouve ce que je n'ai pas trouvé. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai cherché. Il y a plusieurs manières de chercher. Hein. J'ai cherché, mais pas jusqu'à ce que je trouve. Je n'ai pas cherché activement. J'ai cherché de manière très superficielle. J'ai ouvert un tiroir, j'ai regardé, j'ai soulevé un gros paquet de papier, puis j'ai reposé, j'ai dit, non, ça n'est pas là. Et parfois, les enfants, quand ils cherchent un objet, ils cherchent de la même manière. Hein. Ils cherchent pas beaucoup, ils sont impatients, donc il faut trouver. Ce que les paraboles mettent ici en évidence, c'est que ce que Jésus met en tout cas en évidence à travers ces paraboles, c'est que Dieu est celui qui cherche les pécheurs. Il dit ça à ses pharisiens. Et aussi à au publicain qui écoute. Dieu est celui qui cherche activement les pécheurs. Il ne faut pas penser à Dieu comme quelqu'un qui est assis sur son trône et puis qui attend que les chrétiens aillent faire de l'évangélisation et puis cherchent les âmes perdues. Il est activement engagé dans la recherche des âmes perdues. Et on peut le voir dans ce que Jésus dit dans Luc chapitre 19 verset 10. Il dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. La preuve que Dieu cherche activement, c'est qu'il a envoyé son Fils pour chercher et sauver ce qui était perdu. Donc les pharisiens, eux, faisaient tout leur possible pour s'éloigner vraiment des publicains, des gens de mauvaise vie. Mais Jésus leur dit avec ces paraboles-là que il s'approche, l'accueil qu'il réserve aux gens de mauvaise vie témoigne du fait que Dieu les cherche activement. Et c'est pour ça qu'il souligne, je pense, ce trait dans ces paraboles. Dieu est celui qui cherche et qui cherche jusqu'à ce qu'il trouve. Il use de patience, la Bible nous dit, ne voulant qu'aucun périsse. Il parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Dieu secoue la prison de Philippe pour amener au salut le geôlier. Hein. C'est lui qui cherche ce geôlier. Dieu amène une tempête pour sauver Jonas de sa désobéissance. C'est Dieu qui secoue toutes ces choses. C'est Dieu qui est à l'initiative du salut de l'homme. Et c'est lui qui vient et qui cherche jusqu'à ce qu'il trouve. Même lorsque des chrétiens vont et évangélisent, parlent à d'autres, il ne faut jamais oublier que c'est Dieu qui travaille activement au salut et à la recherche des humains. Donc, Jésus dit à ces pharisiens qui lui reprochent de s'associer avec les gens de mauvaise vie, il dit, je le fais parce que je suis venu pour cela et parce que mon Père cherche activement ces personnes qui sont perdu. Vous vous trompez sur le caractère de Dieu. Dieu n'est pas en train de se dire, ah, heureusement que j'ai des pharisiens, des scribes qui sont là, qui observent la loi. Il dit non, il est activement engagé dans la recherche des perdus. Et il recherche individuellement les perdus. Il y a un passage dans l'évangile de Jean qui dit « Je connais mes brebis par leur nom ». Et ici, quand on regarde les paraboles, il n'est pas question d'un berger qui va chercher 50 brebis, ou d'une femme qui cherche 3 pièces, ou collectivement, ou d'un père qui cherche 3 ou 4 enfants. Hein. À chaque fois, c'est une chose qui est cherchée. Et cela met l'accent sur le fait que Dieu cherche activement, mais individuellement, chacune de ses brebis perdues. Et il les connaît, la Bible dit, par leur nom. C'est la preuve qu'il les connaît individuellement et qu'il sauve chacun individuellement. Mais Dieu cherche aussi de manière efficace. Il cherche efficacement. Il dit ici que le berger, la femme, cherche jusqu'à ce qu'elle trouve ce qu'elle cherche. Elle n'abandonne pas, il n'abandonne pas avant d'avoir trouvé ce qu'il cherche. Vous avez déjà vu parfois entendu parfois par des personnes qui se perdent en montagne, hein, ou en mer. Et puis après, il y a des équipes de sauvetage qui vont pour chercher ces personnes. Alors, ils cherchent beaucoup, hein, parfois c'est des jours entiers. Ils ont l'intention de trouver et de sauver les personnes, mais ils n'ont aucune garantie qu'ils vont les trouver et qu'ils vont les sauver. Ce qui est dit ici de Dieu, c'est qu'il cherche avec l'absolue garantie de sauver ceux qui sont perdus. Et le passage qu'on a lu tout à l'heure, que je vous ai dit tout à l'heure, de Luc chapitre 19 verset 10 dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il n'est pas venu faire une tentative de sauvetage. Il n'est pas venu en disant, je ne sais pas si ça va marcher ou si ça ne va pas marcher. Il est venu avec la certitude qu'il sauvera des perdus. Et Jésus le dit ici de manière claire. Il montre à travers ses paraboles que ce qui est perdu est à chaque fois retrouvé. La brebis est bien retrouvée, la drachme est bien retrouvée et le fils est bien retrouvé. Donc le Père cherche activement, individuellement, mais efficacement aussi, chacune de ces brebis qui sont perdues. Ce qui est recherché à chaque fois est retrouvé, bien sûr, à coup sûr. Et donc, dans le domaine du salut, il n'est pas question de recherche infructueuse, ici, mais de recherche efficace. Dieu cherche activement, il veut que ce soit imprimé dans leurs pensées, les perdus, pour les sauver. Et il les sauve, il les cherche jusqu'à ce qu'il les trouve. Jésus avait dit, hein, rappelez-vous, mon Père agit et moi aussi j'agis. Et ils agissent tous les deux, j'ose dire tous les trois, dans le salut des âmes perdues. Donc les pharisiens repoussent, ils évitent les pécheurs, n'est-ce pas? Mais Jésus n'a eu de cesse, lui, de s'approcher des pécheurs, de s'associer à eux d'une certaine manière, d'accepter même leur invitation quand il les invitait, dans le but de les sauver. Et Matthieu chapitre 9 verset 10-13 dit ceci, il dit que Jésus était à table dans la maison de Matthieu qui était un péager, un publicain aussi, hein, donc qui a été racheté par le Seigneur, et il dit, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples, et les pharisiens virent cela. Alors bien sûr, quelle est la réaction des pharisiens? Comme à chaque fois, ils dirent à ses disciples, pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Ce que Jésus ayant entendu, il dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie, je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Les pharisiens étaient des gens qui faisaient beaucoup de sacrifices, hein. Je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela, je fais ceci, je fais cela. C'était une vie de sacrifice et d'observation stricte de la loi, mais aucune miséricorde. Et Jésus dit ici, apprenez que je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Car je suis venu, dit-il, excusez-moi. Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Et c'est la raison qu'il donne à sa venue. C'est ce qu'il dit ici dans les paraboles que nous avons lues à ces pharisiens. Je suis venu pour appeler des pécheurs. Je suis venu pour sauver les pécheurs. Et donc, il faut qu'il aille à la proximité de ces pécheurs. Dieu n'est pas ce que vous croyez. Dieu cherche activement, efficacement et individuellement les perdus. Ça, c'est une première chose. Mais dans la même pensée, il dit ceci aussi, c'est que la repentance du pécheur est une source de joie dans le ciel. La repentance du pécheur, une source de joie dans le ciel. Si vous regardez ces paraboles, vous allez voir qu'il est question, on n'a pas besoin de souligner, hein, mais plusieurs fois il est question de joie et de réjouissance. Le berger qui trouve sa brebis perdue, qu'est-ce qu'il fait? Il la prend avec joie sur ses épaules, il appelle ses amis et ils font la fête, ils sont dans la joie, ils se réjouissent avec lui. La femme qui trouve sa pièce perdue, qu'est-ce qu'elle fait? Elle appelle ses amis et elle se réjouit avec ses amis parce que la pièce qui était perdue, elle l'a retrouvée. Cela montre la valeur que ces choses avaient pour ces personnes. Et puis le père, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il se réjouit probablement avec tous ses serviteurs, mais aussi on peut même penser avec tout le village, hein, et il se réjouit parce que son fils qui était perdu est retrouvé. Et donc, il y a vraiment cette émotion marquante ici dans ce qui est raconté dans ces paraboles. Et cette émotion, c'est la joie. Les personnes qui cherchent et qui retrouvent manifestent publiquement leur joie et se réjouissent avec leurs amis parce que ce qu'elles avaient perdu a été retrouvé. Mais notez ce que Jésus dit. En tout cas, deux fois dans les paraboles, il dit de même, verset 7, je vous le dis, et il dit je vous le dis, ça veut dire que ça c'est une vérité, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et au verset 10, il dit de même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Et le père, il dit à son fils, verset 32, il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et revenu à la vie. Parce qu'il était perdu et il est retrouvé. Et il fallait se réjouir. Et Jésus dit à ses pharisiens, laissez-moi vous dire une chose. La repentance des pécheurs procure une profonde joie à Dieu et une joie complète dans le ciel. Vous croyez peut-être que c'est parce que vous vous efforcez de garder la loi, d'observer strictement la loi, que Dieu est satisfait. Laissez-moi vous dire qu'il y a de la joie, plus de joie dans le ciel, quand un pécheur se repent, que pour un homme quand il trouve sa chère brebis perdue, ou une femme de condition modeste, qui retrouve sa dixième pièce perdue, ou un père qui retrouve son fils qui s'était éloigné. Il y a beaucoup plus de joie dans le ciel lorsqu'un pécheur perdu se repent. Et ça, c'est une chose que nous devons considérer avec une grande importance. On peut penser parfois que le fait de... Voilà, Dieu sera satisfait parce que je le sers. Hein? Je le sers fidèlement, je suis là régulièrement, je prie, parfois les gens vous disent, mais moi je lis la Bible, je prie, c'est bien tout ça. Mais ne croyons pas que Dieu est content, satisfait de nous, parce que nous faisons des choses. C'est ce que Jésus dit. Si on s'approche en pharisien auprès de Dieu, as-tu vu ce que j'ai fait, comme cet homme, je te sers toujours, je n'ai jamais enfreint ta loi. Je fais ceci, je fais cela. D'autres pharisiens disaient, moi je paye la dîme, je jeûne deux fois par semaine, etc. Et Dieu, voilà, tu devrais être content de moi avec tout cela. Et Jésus dit, ce qui réjouit Dieu et le ciel, c'est le pécheur qui se repent, qui reconnaît son péché, son attitude devant Dieu, qui revient à son Père dans la repentance. On peut servir Dieu avec beaucoup de choses à côté, des péchés qui ne sont pas confessés dans nos vies. Ce que Dieu cherche, c'est le cœur qui se repent. Qu'est-ce que la repentance? Quelles sont les vraies marques de la repentance que l'on peut voir ici? Regardez déjà ce que cet homme, on va le voir avec ce que ce fils prodigue dit. Verset 17. Alors, on ne va pas relire toute l'histoire, mais il est allé jusqu'à l'extrémité du péché. On voit jusqu'où le péché amène quelqu'un. Hein. Quand on s'abandonne au péché, là, il descend dans les bas-fonds. Il va jusqu'à, son frère dit, jusqu'à fréquenter les prostituées. Il vit dans la débauche. Et puis il est pour un juif, hein, il finit par vivre avec des cochons, hein, ce qui est le comble. Et à espérer, c'est le comble de l'impureté même. Et à espérer même la nourriture des cochons. Il est descendu dans les bas-fonds parce qu'il s'est détourné de son père. Mais Jésus dit ceci, il dit, cet homme étant entré en lui-même, verset 17, se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il se leva et alla vers son père, et comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Il n'a pas eu le temps de terminer, parce qu'il avait, vous vous rappelez, il avait dit qu'il dirait autre chose. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires, etc. Il n'a pas eu le temps de dire ça. Hein. Le père l'a tout de suite accepté, le père l'a tout de suite accueilli. Il reconnaît d'abord son péché. Hein. Il réfléchit, il rentre en lui-même. Il médite sur sa situation. Il commence à réfléchir, à considérer sa vie, à voir combien elle est mauvaise ici. Et puis, il prend bien sûr des résolutions intérieures. Il dit, je me lèverai, j'irai vers mon père, et je dirai à mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Alors c'est intéressant de voir ici que quelqu'un qui se repent, hein, c'est pas forcément quelque chose de, comment je vais dire ça, de, on n'est pas en mode, comment, je sais pas, improvisation, hein, ici. Il pense à ce qu'il va dire. La repentance véritable demande que l'on réfléchisse vraiment à ce que l'on va dire, que l'on réfléchisse sur les choses, que l'on formule les choses. C'est pas juste j'arrive en décontracté, et puis hop, ça va venir comme de la... Non, celui qui se repent véritablement, il pense à ce qu'il a fait, il pense à ce qu'il va dire, il pèse les choses qu'il va dire. Si vous lisez la prière de repentance de David, le psaume 51, c'est vraiment chaque chose est vraiment pesée. C'est pas des choses qui sont sorties comme ça, on voit que ce sont des choses qui ont été mûries. Et quand il s'exprime devant Dieu, il emploie les mêmes paroles, j'ai péché contre toi et contre toi seul. C'est ce qu'il dit lorsqu'il se reprend. Mais on voit, donc là, on peut dire ici sa résolution, sa préparation, mais on voit aussi son mouvement. Il se lève et il retourne vers son père. Il ne fait pas que penser à se repentir, il se repent vraiment. Il marche dans la direction complètement opposée. C'est ça, se repentir. C'est changer vraiment de mentalité. Donc, il était dans une situation particulière. Il quitte cette situation et il s'en va dans une autre, en direction de son père. Il abandonne les lieux de son péché. Parfois, on veut se repentir, mais sans abandonner le lieu du péché. Là, il abandonne le lieu de son péché et il va vers son père. Et quelqu'un disait ceci, disait que la repentance vraie doit être active. Hein. Il y a une activité, une action dans la repentance vraie. Il ne suffit pas d'avoir des larmes seulement, ou des regrets seulement, ou des pensées seulement. Et cette personne disait, les larmes, les regrets, les remords ne nous seront inutiles, à moins qu'ils soient accompagnés d'action et d'un changement de vie. Donc on peut pleurer autant qu'on veut, on peut regretter autant qu'on veut, on peut se morfondre autant qu'on veut, s'il n'y a pas de changement radical, véritable, ça n'est pas une repentance qui mène à la vie. Cet homme se repent, mais il abandonne le lieu où il était. Il retourne vers son père. Et ensuite il confesse son péché. Il n'y a aucune excuse pour lui-même dans ce qu'il dit. Voyez, il ne dit pas, oui, d'accord, mais bon, j'ai fait ça, mais non. Il reconnaît son péché et il dit, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Il est conscient qu'il a péché contre son père. Et David, quand il fait sa prière de confession, il dit, j'ai péché contre toi et contre toi seul. C'est contre Dieu que l'on pêche. Il ne faut pas oublier que la personne qui est offensée, bien sûr, on pêche contre quelqu'un, mais premièrement, on pêche contre Dieu. C'est lui qui est l'être trois fois saint. Donc chaque péché est une offense à Dieu. Et quand on se repent, on doit confesser à Dieu son péché, revenir à Dieu. Les pharisiens, eux, estimaient ne pas avoir besoin de repentance. Ils étaient déjà comme il faut. Ils jeûnent trois fois par semaine, ils prient. Il prie même, je te loue, Père, on a lu ce texte ce matin, de ce que je ne suis pas comme l'un, comme les hommes pécheurs, ni même comme ce publicain. Quand il n'est pas ravisseur, je ne suis pas adultère, je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela. Oui, je n'ai pas besoin de repentance. Alors que le publicain, comment il prie? Il se frappe la poitrine, dit le texte, et il dit, ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. J'ai péché contre toi. C'est ça, la véritable repentance. Et quand on vient dans cette disposition-là à Dieu, bien Jésus dit, cela procure de la joie dans le ciel. Il dit que Dieu, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un pécheur, pour un seul pécheur qui se repent. Et vous pouvez mettre 99 personnes qui s'estiment servir Dieu correctement, régulièrement. Il dit, ce que Dieu qui procure du plaisir, c'est ce pécheur-là, cet unique pécheur qui se repent. Il ne dit pas qu'il ne faut pas servir Dieu correctement, mais il dit, mais on ne peut pas se cacher derrière le service que l'on a. Il faut avoir cette attitude de cœur repentant et venir à Dieu. Donc Jésus s'approche des pécheurs, il a une relation avec eux, il mange avec eux, parce qu'il veut leur repentance. Il les veut pour son père et il sait que son père est dans la joie lorsqu'un seul pécheur se repent. Donc Jésus leur montre leur propre cœur, avec le caractère du fils aîné, incapable de se réjouir de la repentance de son frère. Qu'est-ce qu'il dit lorsqu'il apprend que son frère est revenu à la maison? Il dit, voici, il y a tant d'années, il est en colère. Toute la maison est en joie, il y a un être en colère. C'est celui qui dit avoir toujours servi correctement son père, sans jamais enfreindre sa loi. Il est incapable de se réjouir avec son frère. Il veut même... Il est en train de dire à son père, cette fête-là, le veau gras que tu as tué, c'est moi qui mérite cela. Parce que moi, je t'ai servi toute ma vie, sans jamais enfreindre ta loi. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dépensé ton argent avec les prostituées. Et c'est pour lui que tu vas tuer le veau gras. C'est injuste. C'est inadmissible, il dit. Ce n'est pas normal. Tu n'es pas juste. Il est dans sa colère, incapable de se réjouir de la grâce que le Père manifeste à l'égard de son frère. C'est même pas son frère, il dit c'est ton fils, si vous lisez bien ici. Mais la Bible nous dit que Dieu ne désire pas la mort de celui qui meurt, mais il veut que les hommes se convertissent. Regardez ce verset dans Ézéchiel, ne cherchez pas, mais Ézéchiel 18, 32, il dit, car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur éternel, convertissez-vous donc et vous vivrez. Et un peu plus loin, il dit, dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Ce que ces pharisiens désiraient au plus haut point, c'est que ces personnes meurent, qu'elles soient sous le coup du jugement de Dieu. Ils n'ont pas l'once d'espoir de repentance pour ces personnes. Et Jésus dit, ce que mon Père veut, c'est que ces personnes changent de conduite et qu'elles vivent. Et c'est pour cela que je suis venu. Je ne suis pas venu pour ceux qui se considèrent justes, qui se considèrent des gardiens de la loi et qui estiment ne pas avoir besoin de repentance. Il dit, revenez, revenez de vos mauvaises voies. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Je ne suis pas venu pour anéantir le pécheur, mais pour que le pécheur se repente et qu'il vive. Je crois que c'est, en tout cas, c'est deux grandes choses que Jésus montre ici, que Dieu cherche le pécheur activement. Et Dieu se réjouit de ce que le pécheur se repent. C'est un Dieu de compassion. Dans le texte, il dit que le Père est ému de compassion. C'est un Dieu de compassion, un Dieu d'amour qui manifeste son amour en accueillant celui qui vient à lui dans la repentance. Je voudrais terminer avec quelques points d'application. Dieu cherche les perdus, alors venez à lui. Dieu lui-même cherche les perdus. Ce ne sont pas des gens, quand on rencontre un chrétien qui nous parle, qui vous parle, ce ne sont pas des gens qui sont venus puis qui vous vendent quelque chose. C'est Dieu lui-même qui est en train de vous chercher. Dieu cherche les perdus. Aux yeux des pharisiens, les pécheurs étaient sans espoir. Ils sont trop pécheurs pour espérer être acceptés de la part de Dieu. Mais Jésus montre vraiment à ces pharisiens que il parle à ces personnes de mauvaise vie, il s'associe avec eux, et qu'il le fait pour pouvoir les sauver. Et donc, peu importe jusqu'où le péché vous a entraîné. Regardez, ce fils prodigue, il est allé dans les bas-fonds de la vie. Il est allé très, très, très loin. Peu importe. Ce qui est important, c'est de vous repentir sincèrement et de venir à Dieu. Il dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Faites comme le fils prodigue, repentez-vous, entrez en vous-même, méditez sur ce que vous savez de Dieu et venez à Dieu, repentez-vous, croyez en lui. Dites, oui, c'est toi qui as raison et moi j'ai tort. Ce que tu dis est vrai, je ne suis qu'un pécheur, invétéré. Tout ce que je mérite, c'est le châtiment, mais je viens à toi, je te reçois, je veux que tu me sauves, il faut le demander, venir à lui, comme cet homme l'a fait. Rappelez-vous ce qu'il a dit, je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Et s'il est venu appeler des pécheurs, quand un pécheur vient, il l'accueille. Et c'est même lui qui l'appelle et qui l'attire à lui. Alors, Dieu cherche les perdus, venez, venez à lui. Je voudrais une deuxième remarque, c'est que le péché est avant tout une affaire de nature et pas seulement d'acte. Dans ce que Jésus présente, les deux fils sont pécheurs. L'un est allé très loin dans l'expression, dans la manifestation physique du péché. Mais l'autre, le second, le fils aîné, était tout aussi éloigné de Dieu en respectant les règlements et les lois. Et parfois, dans nos familles, on peut avoir des choses comme ça, hein, pas ? On peut avoir un fils qui va loin, et puis un autre qui va pas loin. Et parfois, on prend celui qui est toujours fidèle, on dit, regarde comment il est ton frère, etc. Ça ne fait rien dire. Parce que Jésus montre ici qu'on peut être tout à fait dans la maison, à servir le Père, mais sans avoir aucune relation avec le Père. Parce que le péché est avant tout une affaire de nature, et pas seulement d'acte. Ce qui fait que certaines personnes ne vont pas loin, parfois c'est les opportunités. Il suffit qu'elle soit hors du cadre familial ou dans un autre pays pour qu'elle s'adonne comme les autres. Hein. Quand Jésus parle dans le sermon sur la montagne, vous vous rappelez ce qu'il disait? Il disait que l'adultère commence dans le cœur. Ces hommes disaient, tu ne commettras point d'adultère. Oh, ils n'ont jamais commis d'acte physique. Mais dans leur pensée et dans leur cœur, Jésus dit, vous êtes tout aussi coupable parce que vous l'avez commis dans votre cœur. C'est l'opportunité qui vous a manqué pour pécher. Sinon, vous l'auriez fait. Et donc, vous êtes tout aussi coupable. Et donc, ici, il nous faut nous rappeler dans ce que Jésus dit que le péché est avant tout une affaire de nature et pas seulement d'acte. Le fils aîné était tout aussi pécheur que le fils prodigue. L'un est allé loin, l'autre est resté près, mais avec la même attitude de cœur. Il n'aimait pas le Père. Il n'aimait pas le Père, pas plus que le fils prodigue n'aimait pas le Père, en tout cas au début. Une autre chose que je voudrais souligner, c'est que nous devons apprendre aussi à nous réjouir de ce qui réjouit Dieu. Les pharisiens se réjouissent de ce qu'ils observent la loi. Mais l'enfant de Dieu véritable doit apprendre à se réjouir de ce qui réjouit. Ce qui réjouit Dieu, c'est la repentance des pécheurs. Et donc, nous devons nous réjouir de cela. Quand un pécheur se repent, cela devrait nous susciter notre joie. Est-ce que c'est quelque chose de banal maintenant pour nous? Alors, quelqu'un s'est repenti, s'est converti à Dieu, on voit les changements dans sa vie, c'est normal. D'accord? Ou est-ce que ce sont des choses qui nous réjouissent? Est-ce que l'on voit que c'est une âme qui a été arrachée des prises de l'enfer que Dieu a ramené dans son royaume, dans le royaume du Fils de son amour? Est-ce qu'on voit que c'est impossible qu'il y ait une repentance si Dieu n'agisse pas? Si Dieu n'agit pas, c'est l'action de Dieu qui amène la repentance. Et donc, quand on se réjouit de l'œuvre de Dieu dans cette personne. Regardez le fils aîné. Il est incapable de se réjouir non seulement de la repentance de son frère, mais quand il parle de lui toujours au passé. Celui qui a dissipé tes biens avec les prostituées, alors que le père dit, ton fils, il est là, il est revenu. Hein? Lui, tout ce à quoi il pense, ce sont les péchés passés. Celui qui est plein de lui-même, de sa propre justice, il agit souvent comme ça. Son œil est toujours sur le regard du péché des autres. Et des péchés passés, même si la personne a demandé pardon, on se souvient que de ça. Mais celui qui se réjouit comme Dieu se réjouit. Il a les yeux sur la manifestation de la grâce de Dieu dans la vie de cette personne. Oui, c'était une personne pécheresse, mais je vois l'action de Dieu dans sa vie. Maintenant, elle sert Dieu. Et les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et celui qui est un enfant de Dieu doit se réjouir de la moindre petite manifestation de grâce dans la vie de ses frères et sœurs, dans la vie des pécheurs. Il vient à Dieu, même s'il y a des difficultés. Jetons nos yeux sur ce que Dieu est en train de faire. Okay. Et cet homme, donc, il est aveugle. Il n'arrive pas à voir ces choses. Il réclame le jugement de Dieu plus que la grâce de Dieu. Il voudrait que son père punisse ce fils, mais pas qu'il manifeste sa joie à l'égard de son fils qui est revenu. Ce qui réjouit Dieu, ce n'est pas notre service, chers frères et sœurs. Ce n'est pas tout ce que nous pouvons faire. Mais si c'est notre cœur capable de se repentir lorsqu'il est nécessaire de se repentir. David dit dans sa prière, « Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur contrit et brisé. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. » C'est pas des mains qui font des choses, des pieds qui courent à droite et à gauche, des pasteurs qui prononcent des serments. Il faut ces choses. Mais on peut faire ces choses sans avoir un cœur brisé, un cœur contrit, un cœur repentant. Ce que Dieu cherche, c'est le cœur qui se tourne vers lui véritablement dans la repentance. Parce que ça, c'est la manifestation de l'action de Dieu, l'action divine de Dieu dans la vie des individus. Nous devons aussi apprendre à développer des relations avec les perdus en vue de leur repentance. Parfois, on est un peu pharisien. On se dit, bon, moi, je suis comme ça, je suis Dieu, les autres, j'ai pas besoin, c'est des pécheurs. Ces gens-là, au travail, ils connaissent pas Dieu, ils font des choses. Lui, là, je pars le dimanche matin, oh Seigneur, je vois, je m'habille tôt le matin, je pars au culte. Eux, ils sont encore dans leur lit, etc. Ou alors, ils sont sur le terrain de foot. Et ils jouent au foot, je sais parce que terrain de foot en face de chez moi. Hein, bon, ils sont sur le terrain de foot et ils jouent. Moi, Seigneur, tu vois, je vais au culte. Hein?
Et c'est pas comme cela que on doit agir. On doit apprendre à avoir des relations avec ces personnes-là aussi. Pas pour s'associer avec elles dans ce qu'elles font de mal, mais pour leur partager l'évangile. C'est-à-dire avoir en vue leur repentance. Jésus a fréquenté des gens de mauvaise vie. Il a mangé avec eux. Pas pour faire ce qu'il faisait, mais pour les sauver, pour leur présenter l'évangile. Donc on ne doit pas regarder le voisin qui sort et qui est toujours fâché quand on va se garer comme, voilà. Non, on doit penser à lui. Comment est-ce que je peux même lui présenter l'évangile? Parler avec lui quand j'ai l'occasion de parler avec lui, avec un autre voisin. Et c'est quelque chose que nous pouvons faire. Peut-être, on s'est posé la question avec ma femme, qu'est-ce qu'on va faire cette année pour avoir plus de contacts avec, on n'a pas eu beaucoup de contacts avec nos voisins, avoir plus de contacts avec les voisins pour pouvoir leur présenter l'évangile. Que le Seigneur nous montre des choses que nous pouvons faire, nous donne des idées de choses que nous pouvons faire pour favoriser les contacts avec les pécheurs et les perdus. Il faut les voir comme des personnes qui sont perdues, qui ont besoin du Seigneur, les aimer comme Jésus les aimait et pouvoir leur partager la vérité. On doit viser leur repentance, pas pour s'associer dans la confusion et dans les mauvaises œuvres, mais pour leur présenter l'évangile. Et puis, je termine en disant, à l'image de notre Seigneur Jésus, l'enfant de Dieu ne doit jamais fermer la porte, il doit toujours aspirer à la restauration de ceux qui se sont égarés. Pourquoi je dis ça? Parce que des fois on est un peu dur avec ceux qui flanchent. On veut plus les voir. Ok? Que ce soit un membre de l'église, que ce soit un enfant rebelle, on voit que la dureté du Fils unique contraste avec la compassion du Père dans les textes que nous avons lus. Le Père est en train de guetter le retour de son Fils. La porte était ouverte. Quand le Fils vient, il ne lui dit pas « Stop ! Tu pues le cochon ! Va t'habiller ! C'est quoi cet habit, hein ? Il y a une dignité chez nous, hein ! » Non, qu'est-ce qu'il fait ? Il se jette à son cou. Même s'il sentait le cochon, même s'il avait à peine des vêtements sur lui. Et qu'est-ce qu'il dit? Quand son fils confesse, il dit « habillez-le ». Encore, il accueille. Parfois, nous sommes plus durs que Dieu ne l'est avec les gens. Il nous faut apprendre à demander à Dieu de nous donner un cœur compatissant comme lui, là, à l'égard de ceux qui sont perdus, ou de ceux qui se sont égarés et qui reviennent. J'ai lu cette histoire d'un auteur qui s'appelle J.C. Ryle. Il parle d'une mère dont la fille s'était enfuie et avait vécu dans une vie de péché. Et pendant longtemps, personne ne savait où cette fille se trouvait. Mais finalement, la fille est revenue et elle s'est tournée vers Christ dans la repentance et elle a cru en lui. Et il dit que quelqu'un a demandé à la mère ce qu'elle avait fait pour ramener sa fille. Et elle a répondu, j'ai prié pour elle jour et nuit. Mais ce n'est pas tout, elle dit. Elle a ajouté qu'elle laissait toujours sa porte ouverte. Elle dit, même la nuit, elle ne voulait pas que sa fille rentre à la maison au milieu de la nuit et trouve la porte verrouillée. Et il se trouve qu'un soir, sa fille est rentrée à la maison, elle a essayé la porte était ouverte, elle est rentrée et elle n'est plus jamais ressortie pour aller dans le péché. Parfois on dit, oh, je ne veux pas le voir chez moi. C'est comme ça qu'il vit, je ne veux pas le voir. À moins qu'il ne change. Eh bien, Dieu dit, accueille-le tel qu'il est. Regarde le Père, il accueille même quand il sent le cochon. Accueille-le même quand il sent le cochon. Tu ne sais pas ce que Dieu va faire. Tu vois? Il est sale, il est coiffé comme ça, il est habillé comme ça. C'est pas grave, c'est ton fils. C'est ta fille. Tu l'accueilles. C'est ton frère. C'est un perdu. Là. Tu l'accueilles. Tu ne sais pas ce que Dieu va faire à travers cela. Donc que le Seigneur nous aide à agir à son image. On ne veut pas s'associer au mal, mais on ne veut pas repousser le pécheur. Jésus dit, Dieu cherche activement, personnellement, efficacement, il est perdu. Et quand il se repente, il y a une joie extraordinaire dans le ciel. Et l'enfant de Dieu doit s'associer aussi à cette joie. Que le Seigneur nous aide à mettre ces choses en pratique dans notre vie. Prions.